Radio Kapi.
Tension persistante dans une partie du Kivu à la suite des manifestations anti-MONUSCO. Nouvel appel à la paix de l'évêque du diocèse de Beni Butembo. Monseigneur Sikou Lipalukou rencontrait hier le numéro 2 de la MONUSCO. Il dit espérer qu'avec la mise en place du nouveau gouvernement, un changement sera ressenti incessamment dans ce coin du pays. Assemblée nationale, la proposition de loi Lutundu l'a jugée recevable. Ici, Christophe Lutundu apporte des innovations, des réformes de la CENI. Il propose notamment des nouvelles procédures et règles dans la désignation des membres du bureau de la CENI. Vous l'entendrez. Plusieurs agriculteurs de Lubero dans le Nord Kivu contraints d'abandonner la culture de certains produits dont le prix a chuté au marché d'exportation. L'assistant technique du syndicat pour la défense des intérêts paysans appelle le gouvernement à voler au secours de ces agriculteurs. Jean-Marie Moulekia est notre invité ce matin. Notez tout d'abord que le couvre-feu est repoussé de 22h à 4h du matin, cela à Kinshasa et dans les provinces où la courbe de contamination au coronavirus est descendante. Cette mesure est levée dans les provinces où la circulation du virus est faible. Entre-temps, la campagne de vaccination contre le coronavirus débute le 19 avril sur toute l'étendue de la RDC. Elle sera volontaire mais commencera avec le personnel soignant, décision prise par la task force présidentielle contre le coronavirus, équipe qui s'est réunie autour du chef de l'État. Hier mardi. Madame, messieurs, bonjour. Des appels à la paix et à l'arrêt de la violence se multiplient face à la tension qui s'observe dans une partie du Kivu, ce à la suite des manifestations de quelques mouvements citoyens demandant le départ des organisations internationales dont la MONUSCO. Ainsi, l'évêque du diocèse de Butembo Beni appelle la population à ne pas se livrer à la violence. Monseigneur Sikou Lipalukou Melchisedek l'a dit hier à l'issue d'un échange avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations et maintien de la paix. Le numéro 2 de la MONUSCO, Kassim Diagne, s'est réjoui d'avoir reçu plusieurs propositions de la part de l'évêque visant l'imposition immédiate d'une paix durable dans la région de Beni et de l'Ituri. Dans un nouvel appel à la population, l'évêque Sikou Lipalukou Melchisedek dit espérer qu'avec la mise sur pied du nouveau gouvernement, un changement sera ressenti incessamment dans cette partie du pays secouée par la violence. L'évêque diocèse de Butembo Beni au micro de Sadiki Aboubakar.
Quand j'apprends que ceux qui barrent les routes tranchent les oreilles des autres, je crois que c'est pas ça. Est-ce que cela aussi soit apprécié dans leur village? Quelqu'un qui passe par la route, vous lui demandez d'ôter le soulier de marcher à pied. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Il n'y a pas une grande distance de gestes comme cela, aller tuer quelqu'un. Quand vous commencez par des petites choses comme celle-là. Pour autant qu'ils suivent ce que nous disons, nous souffrons peut-être même plus qu'eux. Parce que nous le portons devant Dieu. Nous devons répondre de chacun d'eux. Nous devons nous féliciter aussi. On a sorti un nouveau gouvernement. Et pendant qu'ils s'occupaient de la formation, peut-être de ce gouvernement, nous avions l'impression qu'ils nous ont oubliés, abandonnés même. Nous espérons que maintenant qu'ils sont là, il ne faut pas attendre une semaine que nous sentions qu'il y a aussi du nouveau là-bas.
Par ailleurs, les groupes de pression et mouvements citoyens doivent réorienter leurs revendications pour ne pas jouer le jeu de l'ennemi et à la MONUSCO de bien expliquer son mandat pour bénéficier de la confiance de la population. C'est l'une des recommandations des acteurs politiques de Butembo. Plusieurs partis politiques se sont réunis le lundi pour faire une déclaration commune face à la situation qui prévaut sur place. Objectif, aider les uns et les autres à désamorcer la crise. Le compte-rendu de Grace Amzati.
La coordonnatrice de cette structure des acteurs politiques indique que cette rencontre constitue une occasion d'interpeller la population à reprendre les activités et orienter ses revendications en tenant compte de ses intérêts. Elle ajoute que la crise actuelle a généré plusieurs conséquences. Mbambu Luvuno de Vote donne ici quelques recommandations.
Les acteurs politiques demandent au gouvernement, contrairement à la méthode draconienne, des groupes de pression et mouvements citoyens, de revoir les textes qui nous lient avec la MONUSCO et de bien contrôler les ONG afin que ceux-ci méritent réellement la confiance des populations de Beni Lubero. Nous recommandons aux mouvements citoyens et groupes de pression à réorienter leurs tirs, quoi qu'ils poursuivent une cause noble, de peur d'être qualifiés de jouer au jeu de l'ennemi.
Les acteurs politiques appellent également les conseils urbains de sécurité à barrer la route aux jeunes qui intimident et empêchent la population d'évacuer à ses occupations. Notons que certaines formations politiques disent ne pas être concernées par cette déclaration. C'est le cas de la plateforme Lamuka, nous a confié son point focal à Butembo. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
La MONUSCO n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans l'Est. Les jeunes doivent comprendre que la violence appelle la violence. Déclaration de Madame Passimou Balama, activiste pro-démocratie, œuvrant dans une structure des droits de la femme et de l'enfant basée à Goma. Elle s'est confiée à Michel Outeté.
En fait, nous déplorons tous ces cas d'extrémisme violent, en fait, qu'on est en train d'observer, puis à l'Est, à Goma, à Beni et tout. Par exemple, ce qui s'est passé hier, où on a brûlé des maisons, il y a eu des pillages, beaucoup de blessés et même des morts. C'est juste inacceptable pour les jeunes d'agir de cette façon-là. La violence, pour moi, n'a jamais été une solution. On ne peut pas résoudre tout avec la violence. On demande que la MONUSCO parte, mais pour moi, c'est pas la MONUSCO qui est à la base de tout ce que nous connaissons ici à l'Est. Alors, il y a des responsables de tout ce qui s'est fait là-bas, et ce sont ces responsables-là qui doivent partir, qui doivent payer pour ce qu'ils font.
Dans le même registre, les mouvements citoyens, les collèges des étudiants et les organisations des jeunes de la ville de Goma appellent à la cessation des violences après deux journées décrétées ville morte dans le chef-lieu du Nord Kivu. Ils s'expriment à travers un communiqué de presse publié à l'issue d'une rencontre tenue le lundi à Goma. S'ils se félicitent que leur appel à deux journées ville morte ait été largement suivi, ces mouvements déplorent cependant le fait qu'il y ait une autre manifestation qui n'a rien à voir avec leurs revendications pacifiques. Ces mouvements citoyens et Collège des étudiants condamne ainsi des actions de violence et appelle la justice à se charger des fauteurs de troubles ainsi que des tireurs de ficelles. Écoutez plutôt Espoir Ngaloukié, militant de la Loucha, dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga.
Notre appel à la cessation des violences. À la fin de ces deux journées ville morte, nous avons remarqué une autre forme de manifestation populaire au quartier Katoy, Majengo et Bouéné. Ces manifestations ont tacitement migré en une autre lutte différente de celle pour laquelle nous nous battons, la lutte pour la paix et le départ des casques bleus. Attachés à la sacralité de la vie humaine et rappelant les caractères de notre lutte, la non-violence et une lutte non-partisane, nous décourageons et condamnons tout appel et acte violent propageant la haine tribale, quelle que soit l'origine et la forme. Nous appelons également les jeunes à la retenue, à ne pas être violents et à ne pas perdre le focus sur la question essentielle qui est la question de la paix. Nec plus ultra. Rien au-delà. Nous décrions l'attitude et les actions barbares des siècles passés de la part de certains éléments de la police et nous rappelons que notre droit à manifester pacifiquement n'est pas une faveur. Nous appelons ainsi la justice militaire de se charger d'eux ainsi que des leaders et tireurs de ficelles ainsi que les attiseurs de faits ayant transformé ces ras-le-bol populaires en conflit tribal.
Sur le terrain à Goma, la situation a subitement dégénéré en début de l'après-midi d'hier dans les quartiers Majengo et Bouéné, théâtre des manifestations violentes le lundi, ce en dépit de la reprise timide du trafic et des activités économiques observées le matin. Des sources proches des forces de sécurité avancent un bilan provisoire de 6 morts parmi les assaillants, sans préciser de quel côté. Le point avec Gabriel Ouamenia.
La situation qui revenait progressivement à la normale avec la reprise timide du trafic et des activités économiques vient brusquement de s'estomper avec le crépitement des balles dans les quartiers Bouéné et Majengo. Les sources dans ces agglomérations affirment que ces manifestations viennent de prendre une connotation ethnico-tribale entre les communautés vivant dans ces deux entités. Les sources anonymes de la police sur place confirment la présence des combattants Maïmaï venus de la région de Kibumba en territoire de Nyiragongo pour soutenir leurs frères, alors que les combattants Nyatura se rallient à leurs frères. Ces sources affirment qu'une arme d'un élément de la police militaire des FRDC vient d'être emportée par ses assaillants pendant un échange de tirs avec la police militaire des FRDC. Les habitants qui regagnaient progressivement leurs habitations viennent de retourner dans les quartiers où ils ont trouvé refuge après les manifestations d'hier lundi. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Kapi.
Du côté de Beni, les activités socio-économiques ont timidement repris en début de l'après-midi d'hier, après quelques manifestations sporadiques signalées dans certains quartiers. Quelques boutiques, magasins et autres stations-services ont tenté de rouvrir leurs portes, craignant des menaces proférées par certains jeunes manifestants. Des taxis motos étaient également visibles dans plusieurs artères de la ville, mais tous les établissements scolaires et les banques n'ont pas fonctionné. Pendant ce temps, des éléments de la police, appuyés par des militaires, continuaient à patrouiller dans la ville de Beni pour faire respecter l'arrêté du gouverneur du Nord Kivu, interdisant toute manifestation publique sur toute l'étendue de la province. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi Lutundula sur la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale. Dans cette proposition de loi, Christophe Lutundula apporte des innovations, des réformes pouvant rendre à la CENI son indépendance, sa neutralité ainsi que son impartialité. Il propose donc des nouvelles procédures et règles dans la désignation des membres du bureau de la CENI, mais aussi dans l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale. Christophe Lutundula au micro de Michel Kifindangoy.
J'ai proposé une série de dispositions. Premièrement, il faut qu'on sache qui est membre de la CENI. Moi, j'estime que tout celui qui a appartenu ou qui appartient à une organisation politique au cours des 5 dernières années précédant sa désignation ou à une association de la société civile alliée à une organisation politique, il doit s'abstenir d'être membre de la CENI. C'est une présomption, bien sûr, mais il faut au moins rêver de cet idéal. Deux, ce ne sont pas toutes les organisations de la société civile qui sont intéressées aux élections. Il faut que ce soit une organisation qui fait l'éducation électorale ou une organisation qui fait l'observation électorale. Ou encore, pour les femmes, une organisation de défense des droits de la femme. Et ces organisations doivent exister à travers le pays. La CENI n'est pas une assemblée politique. La CENI est là pour garantir l'impartialité, la neutralité et des élections crédibles à chance égale. Donc ça ne se comprend pas qu'il y ait une composante qui a plus de gens, comme si on lui donnait une prime pour qu'il puisse se reproduire.
Direction la province de la Tchopo. Un groupe de députés provinciaux a déposé hier une motion de défiance contre le gouvernement provincial. Selon l'initiateur de cette motion, le député provincial Truffin Mabiki Yambei, le gouverneur doit s'expliquer sur un certain nombre de griefs mis à sa charge. Toujours selon lui, l'invitation lui a été remise pour qu'il se présente le jeudi prochain devant les élus du peuple. Le député Truffin Mabiki Yambei explique au micro de Jacques Moukonkole.
On a humilié les députés, l'opacité de la gestion, la caporalisation des finances publiques et tout. Il y en a beaucoup, vous verrez dans la motion lorsqu'on va discuter.
La motion signée par combien de députés ?
14 députés.
Pourquoi attendre la publication du gouvernement pour...
Bon, nous n'avons pas de commentaires à ça. C'est-à-dire, c'est d'abord, on avait bien voulu déposer la motion pour l'intérêt de la province de la Tchopéba. Donc, ce n'est pas le départ, c'est un moyen de contrôle. Qu'il vienne, lorsqu'il va venir, on doit apprécier. Ce n'est pas que coûte, il faut que le gouvernement parte. Mais on va apprécier selon les réponses qui doivent croiser l'attendement des représentants du peuple. Les députés ont leur prérogative de contrôler, de légiférer. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut toujours faire, tout ça, mais ça n'est pas le contrôle des députés.
Par ailleurs, en Ituri, la motion de censure contre le gouvernement provincial a été votée hier à l'Assemblée provinciale par 33 voix sur les 41 députés présents à l'hémicycle. Conséquence, le gouvernement Bamanis a déchu. Les membres de l'exécutif provincial n'ont pas répondu à l'invitation des députés pour présenter leurs moyens de défense. L'examen de cette motion s'est déroulé sous une forte surveillance de la police déployée dans certains coins de la ville pour étouffer la manifestation des jeunes. Martial Kiza, reportage.
41 députés provinciaux ont pris part à la plénière de mardi chargée d'examiner la motion de censure contre le gouvernement provincial. Après adoption de l'ordre du jour, ces députés ont discuté sur la requête du gouverneur des provinces, Jean-Babalissa Saïdi, qui avait sollicité dans une correspondance adressée au bureau de l'Assemblée provinciale une prolongation de 48 heures. Cette demande a été rejetée par la majorité des élus qui ont résolu d'envoyer une seconde invitation à l'exécutif provincial pour se présenter à 14h à l'hémicycle. Mais jusqu'à 14h30, les membres du gouvernement provincial n'étaient toujours pas dans la salle. Les députés ont résolu d'examiner cette motion de censure. L'initiateur de cette motion, Adaba Masumbuko, a présenté les griefs contenus dans son rapport contre le gouvernement provincial, qui est accusé notamment de mégestion. Après débat, les députés sont passés au vote. La décision finale est tombée. 33 élus ont voté pour et 8 contre. Selon la loi, le gouverneur des provinces dispose des 48 heures pour présenter sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État. Depuis l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Martial Kizabiamongo, Radio Kapi.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Bénin. Le président Patrice Talon, réélu dès le premier tour de la présidentielle de dimanche 11 avril avec 86% des voix, résultat provisoire annoncé hier soir par la Commission électorale nationale autonome, toujours selon la Sénat, la participation a été de 50,17%. L'Inde fait face à sa pire vague de contamination depuis le début de la pandémie de COVID-19, avec plus de 165 000 cas enregistrés dans les dernières 24 heures, soit près de deux fois plus que lors du dernier pic de septembre 2020. Surtout, le virus se répand bien plus rapidement et n'est parfois même pas détecté par les tests.
L'invité.
Il s'agit de Jean-Marie Moulekia, assistant technique du syndicat pour la défense des intérêts paysans, SIDIP. Il nous parle des difficultés qu'éprouvent plusieurs agriculteurs, difficultés qui les poussent à abandonner la culture de certains produits dont le prix a connu une chute au marché d'exportation dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Selon lui, ces difficultés appauvrissent davantage les paysans. Jean-Marie Moulekia appelle le gouvernement à voler au secours de ces agriculteurs. Il s'entretient à ce sujet avec Florida Kahambu.
Monsieur Jean-Marie Moulekia, bonjour.
Bonjour, madame.
Le SIDIP a organisé une formation de deux jours à l'intention des agriculteurs du territoire de Lubero. Cette formation s'inscrit dans quel cadre?
La formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des gestionnaires des entrepôts construits par SIDIP dans le projet Code 1129 pour qu'ils puissent améliorer la gestion des entrepôts, ensuite aussi la qualité des produits agricoles qui sont entreposés.
Qu'est-ce qu'il y avait comme problème qui a motivé les SIDIP à essayer de répondre à ces besoins?
Nous avons vu que dans les territoires de Lubero, trop de denrées alimentaires pourrissent puisqu'il y a manque des entrepôts au niveau des bassins de production. Et lorsque, par exemple, les jours de marché, dans un village où il n'y a qu'un seul jour de marché, après le marché, le reste de la production vendue, on ne trouve pas où les entreposer. C'est pourquoi nous avons songé à construire des entrepôts dans les villages pour que après même le marché, même sans marché, que les producteurs viennent en entreposer les productions en attendant le marché.
Les conditions d'entreposage diffèrent selon que l'agriculteur lui-même dépose sa production à la maison que dans l'entrepôt que vous avez construit.
Oui, ça diffère sérieusement. D'abord, les producteurs n'ont même pas d'espace pour entreposer leur production, ça c'est un. De deux, ils ne sont pas informés sur les techniques d'entreposage. Troisième point, lorsque chaque producteur entrepose chez soi sa production, l'on ne parvient pas à trouver les statistiques pour dire que dans tel village, dans tel bassin de production, il y a eu autant, telle quantité de production qui a été retrouvée pendant telle ou telle autre saison. Mais à partir de ces entrepôts, on va faire la collecte de toute la production des producteurs et là, on saura que dans tel bassin de production, il y a eu autant de tonnes de pommes de terre, autant de tonnes de choux, autant de tonnes d'oignons et de manioc. Alors, ça va nous permettre, ça va permettre aussi aux services étatiques d'économie de connaître les statistiques facilement.
Quels sont les défis auxquels les agriculteurs font face actuellement dans la région maraîchère?
Les producteurs font face à plusieurs défis. Le premier défi, c'est par rapport d'abord aux routes des dessertes agricoles qui sont délabrées. Le deuxième défi, il y a la sécurité. Le troisième défi, c'est le manque de prix rémunérateur.
Par rapport au prix, c'est quelle culture qui est touchée par cette situation?
Bon, c'est presque toutes les cultures, mais nous pouvons donner un cas spécifique pour les quinquinas, les oignons et quelquefois les cossettes de manioc.
Comment ça se passe actuellement avec ces trois cultures-là que vous venez de citer?
Pour les quinquinas, le prix est devenu très médiocre, de telle enseigne qu'un kilo de quinquinas, c'est entre 1000 et 1200 francs. Alors, les producteurs sont découragés de poursuivre cette culture. Nous avons même essayé d'aménager des pépinières dans la région, 5 pépinières, d'une capacité de 20 000 plantules, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preneurs qui viennent prendre les plantules puisqu'ils sont vraiment découragés par la culture des quinquinas. Pour l'oignon, quand il y a trop de production, le prix aussi baisse considérablement. également de telle enseigne que même les paysans à Masserega, par exemple, ils ont tendance à fuir la culture de l'oignon pour ne faire que la pomme de terre. Nous avons eu une période où les 50 kilos de kinguina, on les prenait facilement à $20, les 50 kilos. Mais aujourd'hui, vraiment, les 1 kilo, c'est moins que $0.5.
Est-ce que ça affecte les CIDIP?
Oui, parvenir à produire le plantil de kinguina, c'est tellement coûté. Par pépinière, nous avons planifié au moins $5,000. Et imaginez-vous, $5,000 et nous avons 5 pépinières, c'est plus que $25,000 qui vont se perdre comme ça.
Alors, quelles recommandations vous pouvez faire?
D'abord, au gouvernement, nous recommandons au gouvernement congolais, d'abord, par rapport à l'aménagement des voies de desserte agricoles, donc les routes. Donc, le gouvernement doit améliorer ses voies de desserte agricoles. Il doit aussi arriver à aider la population par rapport à la négociation des prix, surtout pour les preneurs de kinguina, arriver même à aller négocier le prix au niveau du marché mondial. Et autre recommandation par rapport aux preneurs de kinguina qui sont locaux ici chez nous, les acheteurs, oui, qu'ils puissent aussi arriver quand même à augmenter.
Voilà, c'était là notre invité, l'assistant technique du syndicat pour la défense des intérêts paysans CIDIP, Jean-Marie Moulekia, était avec Florida Kahambu. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de nous avoir suivis.